Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 7 décembre. Avec vous, Marianne Murat et Jean-Noël Ducasse pour une heure en français au cours de cette émission Le Journal, les sports, le journal de la semaine. Et on parlera du Petit Prince, ce spectacle de danse qui revient à Sydney du 1er au 23 janvier prochain. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les enseignants et les directeurs publics d'écoles publiques de Nouvelle-Galles du Sud se mettent en grève ce mardi pour la première fois en une dizaine d'années. L'action collective vient en réponse à de nouvelles inquiétudes concernant le manque d'enseignants en raison de salaires non compétitifs et de charges de travail insoutenables. Ils demandent une augmentation de salaire de 5 à 7,5% par an, conformément aux recommandations de l'enquête Gallup sur la profession enseignante. Le président de la Fédération des enseignants de Nouvelle-Galles du Sud, Angelo Gavridlatos, a déclaré que le gouvernement de l'État devrait prendre des mesures.
We are heading straight into a perfect storm. We've got a rapidly aging teaching service. We're about to experience a significant growth in student enrollments in New South Wales. And on top of that, there's been a 30% decline in people entering teacher education. The government knows that there's been a decline in teacher salaries relative to other professions, which is making teaching a less attractive option for high-achieving students.
Le Queensland met en œuvre des protections plus strictes pour les travailleurs de l'hôtellerie et de la restauration alors que l'État enregistre un nouveau cas de COVID-19 acquis localement. L'infection est liée à un cas précédemment confirmé et a été détecté sur la Gold Coast, portant un cluster existant à 4 cas. Cela survient alors que l'État se prépare à rouvrir ses frontières ce 13 décembre et à permettre aux entreprises de fonctionner à pleine capacité le 17 décembre de la semaine prochaine. La ministre de la Santé, Yvette Darf, a déclaré que toute personne qui crache, éternue ou tousse délibérément sur les travailleurs sera condamnée à une amende.
That means if you behave in this way, then you can see an on-the-spot fine of $1,378.50. Or if your offence is such that the police choose to take you to court, it could be a $13,785 fine or up to 6 months imprisonment.
La ville de New York a déclaré que tous les employeurs du secteur privé doivent mettre en œuvre des mandats de vaccin COVID-19 pour leurs travailleurs, car le variant d'Omicron s'est propagé dans au moins un tiers des États américains. La plus grande ville d'Amérique a fixé une date limite du 27 décembre pour les 184 000 entreprises afin que leurs employés prouvent qu'ils ont été vaccinés. Le maire de New York, Bill de Blasio a déclaré que la vaccination était le seul moyen de sortir de la pandémie.
It's not something we can't handle. We have the tools, but we have to use those tools aggressively. And we have to move quickly. And that's why I describe the actions we're taking today as a preemptive strike. Get ahead of this problem before it deepens and use the thing that works, vaccination. We can talk about all the other tools and we will. But vaccination is the central weapon in this war against COVID. It's the one thing that has worked every single time across the board.
Le Nigeria a critiqué la Grande-Bretagne pour avoir imposé une interdiction de voyager après la détection de cas du variant Omicron dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Le ministre nigérien de l'Information, Lai Mohamed, a déclaré que l'interdiction imposée le week-end dernier n'est pas fondée sur la science ou le bon sens.
La décision by the British government to put Nigeria on the red list just because of less than 2 dozen cases of Omicron, which by the way did not originate in Nigeria, is unjust, unfair. unfair, punitive, indefensible and discriminatory.
L'Australie s'est jointe aux États-Unis pour demander la libération de la dirigeante démocratiquement élue de la Birmanie, Aung San Suu Kyi, qui a été condamnée à au moins 2 ans de détention. Le ministère australien des Affaires étrangères a qualifié la décision de profondément préoccupante après qu'un tribunal de Birmanie sous contrôle militaire ait condamné Mme Suu Kyi à 4 ans de détention pour incitation et violation des restrictions de COVID-19. La télévision d'État a rapporté plus tard que la peine avait été réduite à 2 ans dans le cadre d'une grâce partielle. Juliette Verlin, Radio France Internationale.
On l'a appris ce matin, Aung San Suu Kyi et le président de la Birmanie, U Win Myint, ont été condamnés pour 2 des accusations qui leur sont portées, incitation à la violence et infraction de la loi de protection contre le Covid-19 lors de leur campagne en fin d'année dernière. C'est la première sentence à tomber parmi les 11 accusations dont Aung San Suu Kyi fait l'objet, et après des mois d'un procès qui dure. Si elle était condamnée pour chacune de ces accusations, l'ancienne conseillère d'État finirait sa vie en prison. Elle est actuellement retenue à domicile dans la capitale Naypyidaw, loin des médias et de son peuple, avec qui elle n'a de contact qu'à travers son avocat. Ce dernier n'a d'ailleurs plus le droit de s'exprimer publiquement sur le contenu des audiences, ce qui rend ce procès complètement fermé, très compliqué à suivre pour la population. D'après les activistes birmans, la junte fait durer le procès et multiplie les accusations contre Aung San Suu Kyi dans le but de l'exclure de toute vie politique à l'avenir. Celle qu'on appelle la dame a aujourd'hui 76 ans, et pour les birmans, il est peu probable qu'elle retrouve un jour la liberté.
Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a accueilli la lauréate du prix Nobel de la paix et militante pour l'éducation Malala Yousafzai au département d'État de Washington. Au cours de leur réunion bilatérale, les deux personnes prévoient de discuter des problèmes régionaux au Moyen-Orient, en particulier des efforts visant à garantir l'éducation des femmes et des filles en Afghanistan. Madame Yousafzai avait ce message pour le président américain Joe Biden.
But we know that Afghanistan right now is the only country where girls do not have access to secondary education. They are prohibited from learning. And I have been working together with Afghan girls and women's activists, and there is this one message from them that they should be given their right to work, they should be able to go to school. And I have a letter from Satuda, a 15-year-old Afghan girl, and she has written this to President Biden that I will pass on to you to pass it on to President. If girls don't learn, Afghanistan will suffer too.
Les Verts en Allemagne ont approuvé un accord tripartite avec le nouveau gouvernement allemand qui doit prêter serment la semaine prochaine. Le parti écologiste fera partie d'un nouveau gouvernement de coalition dirigé par l'Union des sociaux-démocrates de centre-gauche, le SPD et les libéraux. Olaf Scholz prêtera serment en tant que nouveau dirigeant du pays, remplaçant la chancelière Angela Merkel. Annalena Baerbock, des Verts, qui doit devenir ministre des Affaires étrangères du pays, a souligné l'importance de soutenir le système de santé alors que l'Allemagne affronte sa 4e vague de COVID-19.
Die oberste Priorität, die jetzt ansteht.
The main priority now is to achieve greater safety nationally through preventative health measures, to do our utmost to address the situation in hospitals, to support care and medical staff, and not least to vaccinate as fast as possible.
Und vor allen Dingen impfen, was das Zeug hält.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rendu visite aux troupes près de la zone séparatiste dans l'est du pays. Cela survient alors que les tensions montent au sujet d'une concentration de troupes russes près de la frontière des deux pays. Les responsables ukrainiens et occidentaux craignent que la concentration militaire russe n'indique des plans d'invasion, une préoccupation dont le président russe Vladimir Poutine et le président américain Joe Biden devrait discuter par téléphone aujourd'hui. Le gouvernement russe a nié les accusations, affirmant que les préoccupations occidentales font partie des efforts visant à ternir l'image de la Russie. L'attaché de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré qu'elle ne pouvait pas entrer dans les détails.
I'm not going to get ahead of the president's conversations with his transatlantic partners, but I would say that our objective here is conveying diplomatically that this is the moment for Russia to pull back their military buildup at the border, that diplomacy is the right path forward here, but that we are going to continue to coordinate closely with our partners, our transatlantic partners, on a range of economic sanctions and steps that couldn't be taken should President Putin decide to move forward.
Israël continue de se chercher des alliés afin de lancer une offensive contre l'Iran, déterminé à mettre en échec le programme nucléaire iranien. Reportage de Sami Boukhelifa pour RFI depuis Jérusalem.
Avant une éventuelle offensive armée contre l'Iran, c'est une offensive diplomatique qu'ont lancé les Israéliens. Depuis plusieurs semaines, les responsables de l'État hébreu font la tournée des grandes puissances. Leur but, s'assurer du soutien des pays amis en cas de guerre contre l'Iran. Sans succès pour le moment. Alors, une nouvelle fois, les Israéliens se tournent vers l'allié de toujours, Washington. Israël est certes poids lourd militaire au Moyen-Orient, mais c'est en grande partie grâce aux États-Unis. Pour mener à bien une offensive armée contre l'Iran, l'État hébreu a besoin de bombardiers et surtout de missiles perforants, des missiles capables de détruire les imposantes structures en béton armé qui protègent les installations militaires iraniennes. Mais les Américains n'ont toujours pas fourni cet armement aux Israéliens, confie une source diplomatique proche du dossier. Cela explique l'agitation tous azimuts des responsables de l'État hébreu, rajoute cette même source. Le directeur du Mossad est actuellement à Washington, il y sera rejoint ce jeudi par le ministre de la Défense israélien.
Trois nouveaux membres du groupe de 17 Nord-Américains enlevés mi-octobre en Haïti ont été libérés. 16 Américains et un Canadien avaient été enlevés le 16 octobre dernier après la visite d'un orphelinat. Oriane Verdier, RFI.
Les trois otages en question ont été libérés hier soir selon l'organisation religieuse à laquelle ils appartiennent. Ils sont sains et saufs et semblent avoir le moral, ajoute le communiqué de Christian Aid Ministries. On ne connaît donc ni leur identité, ni la modalité de leur libération. Washington et Ottawa affirment tous deux ne pas payer de rançon lorsqu'un de leurs citoyens est kidnappé. Au total, 16 Américains et un Canadien avaient été enlevés le 16 octobre dernier. Ils étaient partis visiter un orphelinat au cœur d'une zone sous l'emprise de l'un des principaux gangs d'Haïti. Parmi les otages figurent 5 enfants âgés de 8 mois à 15 ans. Les membres du gang 400 Mawozo, responsables de l'enlèvement, avaient réclamé 1 million de dollars par personne. Dans une vidéo diffusée fin octobre, le chef de cette bande armée avait menacé d'exécuter les otages si les rançons ne leur étaient pas versées. 12 personnes sont donc toujours captives. Les enlèvements de masse sont devenus monnaie courante en Haïti. Plus de 800 enlèvements contre rançon auraient été recensés dans le pays depuis le début de l'année.
En Australie à nouveau, de nouvelles données révèlent que les gens se sentent plus seuls pendant cette saison festive qu'ils ne l'étaient l'année dernière. Une enquête de la Croix-Rouge australienne a révélé qu'une personne sur trois est moins enthousiaste pour la saison des fêtes que les années précédentes et 61% craignent que la famille et les amis vulnérables ne se sentent seuls si les restrictions de voyage restent en vigueur. La directrice de la Croix-Rouge, Penny Harrison, a déclaré que ces sentiments étaient très probablement dus à une perturbation des modes de vie normaux en raison de la pandémie.
And so people are feeling disconnected and sort of wondering where to start actually to rebuild those connections. And what we know for women is that we feel women really bore the burden of the pandemic, working, often caregiving, whether that was supporting children or other caring responsibilities. And we feel that perhaps women just haven't had enough time to look after themselves.
La Chine a accusé les États-Unis de démagogie à la suite de la décision de l'administration Biden de boycotter diplomatiquement les prochains JO d'hiver qui se tiendront à Pékin. L'envoi de délégations de haut niveau à chaque JO est depuis longtemps une tradition parmi les États-Unis et d'autres pays occidentaux. L'attaché de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a confirmé la décision, affirmant que les athlètes américains continueraient de participer à avec le plein soutien de leur pays.
The Biden administration will not send any diplomatic or official representation to the Beijing 2022 Winter Olympics and Paralympic Games, given the PRC's ongoing genocide and crimes against humanity in Xinjiang and other human rights abuses. The athletes on Team USA have our full support. We will be behind them 100% as we cheer them on from home, but we will not be contributing to the fanfare of the Games.
Coup d'œil météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 37 degrés. Adélaïde, 21. Melbourne, 16. Hobart, 17. Canberra, 25. Sydney, 26. Brisbane, 29. Darwin, 34. Et à Alice Springs, maximale de 33 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi 7 décembre. Les enseignants de Nouvelle-Galles du Sud en grève ce mardi. La peine de prison de la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi est réduite de moitié. Et en sport, les États-Unis confirment un boycott diplomatique des JO d'hiver de 2022 à Pékin. Fin du journal et dans quelques instants, le magazine des sports présenté par Marianne Murat.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Le journal des sports de ce mardi et on débute avec les résultats de football. D'abord en France et les dernières informations de la Ligue 1, signée Marie-Amélie Motte.
Oui, Bordeaux et Lyon, deux clubs en grande difficulté cette saison. L'OL de Peter Bosch s'est fait rattraper alors qu'il a mené au score à deux reprises. L'OL seulement 12e ce matin et Bordeaux de son côté pointe à la 17e place. Les Girondins ont réussi à décrocher le nul après la lourde défaite 5-2 mercredi à Strasbourg. Jean Onana, le milieu de terrain camerounais de Bordeaux, était soulagé de la réaction de son équipe.
Ouais, le match était incroyable. On a eu des occasions pour marquer et gagner le match. Malheureusement, à la fin du match, on rate l'inratable. Mais bon, on était solide durant tout le match, c'est l'important. On était plus compact, malgré qu'on ait pris deux buts, on était plus compact. Donc c'est ça le plus important.
Il y a noté hier également la victoire 5-0 de Rennes à Saint-Étienne. Saint-Étienne dernier de Ligue 1. L'entraîneur stéphanois Claude Puel n'a pas résisté à cette large défaite. Il a été démis de ses fonctions. Et puis en Angleterre, premier match et première victoire pour Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United. 1-0 face à Crystal Palace. United 6e de Premier League ce matin à seulement 3 points de la 4e place.
En Ligue 2 et pour la 17e journée, 9e du classement, Niort a battu le leader Toulouse 2-1. Dans le reste de l'Europe, direction l'Espagne, et ses matchs nuls entre Getafe et l'Atlético Bilbao lors de la 16e journée du championnat, 0 partout. 16e journée du championnat d'Italie également, et la victoire d'Empoli face à l'Udinese, 3-1, et le match nul entre Cagliari et Turin, 1 partout. On termine avec la 15e journée du championnat d'Angleterre et Everton fait plier Arsenal 2-1. De son côté, Manchester United a fait de la place sur le banc pour Ralf Rangnick. C'est une petite révolution dans le nord de l'Angleterre. Martin Guez et Philippe Auclair pour Radio France Internationale.
On a assisté, c'est la première de Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United. Et on a assisté à la première victoire des Red Devils. Une petite victoire, mais une victoire quand même.
Oui, une victoire importante. On va pas dire qu'il y a eu de bouleversements. C'est certainement pas en l'espace de quelques jours que Ralf Rangnick ne s'est occupé de l'équipe que depuis quelques jours. Celle qu'il avait choisie sur le terrain, ressemblait beaucoup à celle qu'avait utilisée avant lui Michael Carrick et évidemment Ole Gunnar Solskjaer. Mais, l'essentiel, c'est en effet ces 3 points. Un but absolument magnifique au passage de Fred, jouant dans une position un petit peu plus avancée que d'habitude sur un service de Mason Greenwood. Il y en a qui disent déjà, un jeune comme Mason Greenwood et un joueur qui était peut-être un petit peu en deçà comme Fred, qui sont décisifs. C'est le signe que Rangnick, son empreinte, se fait déjà sentir. Bon, c'est allé peut-être un petit peu vite en besogne. En attendant, faisant suite au résultat, d'ailleurs plutôt bon, de Michael Carrick avec United, ça permet aux Red Devils de se replacer, ma foi, dans la course, non pas au titre, parce que celui-là, on peut l'oublier, mais dans la course à une place en Europe et qui sait peut-être même en Ligue des Champions, si cette dynamique devait se poursuivre dans les jours qui viennent.
Une autre révolution en Espagne cette fois. La Barcelonaise Alexia Putellas a décroché le Ballon d'Or. La milieu de terrain est la troisième femme à être sacrée après Ada Hegerberg et Megan Rapinoe, première espagnole à l'emporter, Pierre Chaperon.
Et la vainqueur est Alexia Putellas.
Cette récompense était tout sauf une surprise. En Espagne, celle que l'on appelle simplement par son prénom, Alexia, était la favorite depuis qu'elle l'a gagnée avec son club, le FC Barcelone, la dernière Ligue des Champions. La jeune femme de 27 ans a d'ailleurs été consacrée hier au Camp Nou avant le match des hommes entre le Barça et le Betis Séville. La Catalane a fait la une de la presse sportive le lendemain de la cérémonie, historique pour Marca, de l'or pur pour le quotidien catalan L'Esportiu. Après la cérémonie, sur la radio Cadena Ser, Alexia n'avait qu'un message, que cette récompense soit un espoir.
C'est comme un rêve. Il y a beaucoup de joie, beaucoup d'émotions et surtout, en remportant ce prix, je me sens privilégiée. Ce ballon d'or, c'est un coup de pouce. C'est ce dont nous avons besoin. On veut que les gens croient en ces joueuses. Finalement, les résultats sont là. Il n'y a plus d'excuses pour faire un pas en avant.
Un pas en avant, au-delà d'une simple punchline, c'est un désir qui est exprimé par toutes les joueuses ici. Si la presse sportive n'oublie jamais de compter les exploits des équipes féminines du pays, là une Ligue des Champions remportée, ici un huitième de finale de Coupe du Monde pour l'Espagne en 2019, il est néanmoins plus difficile de suivre avec une grande assiduité l'actualité au jour le jour. Selon la journaliste du quotidien catalan Sport, Maria Ticas, le ballon d'or peut changer la donne.
Je crois que c'est très positif parce que ça marque un avant et un après dans le football féminin espagnol. Et ça signifie énormément parce que j'espère vraiment que maintenant tous les clubs, la Liga, la Fédération, vont miser beaucoup plus sur le football féminin pour avoir une ligue plus compétitive et qu'ils peuvent voir qu'on peut arriver à obtenir des récompenses comme ça.
En Espagne, le football féminin se rêve propulsé plus souvent sur le devant de la scène. Mais la construction semble longue. Les nombreux dysfonctionnements, comme le manque d'infrastructures médicales, sportives, plombe sa croissance. Néanmoins, avec des locomotives comme le Real, le Barça et l'Atlético de Madrid, il est permis de rêver à des lendemains qui chantent.
On passe au tennis à présent et la Russie a remporté la Coupe Davis à Madrid. Une victoire facile contre la Croatie. Eric Mamrut a suivi la phase finale pour RFI.
Sur les 4 rencontres que la Russie a disputées en 10 jours, elle n'a perdu qu'un seul match à enjeu. C'était contre l'Espagne en phase de poule avec la défaite d'Andrei Rublev contre Feliciano Lopez. Sans conséquence puisque les Russes l'avaient finalement emporté 2-1 pour se hisser en quart de finale. Mais pour le reste, ce fut une balade de santé pour les Medvedev, Rublev, Khachanov et Karachev. Tour à tour, l'Équateur, la Suède, l'Allemagne puis la Croatie aujourd'hui en finale n'ont pas fait le poids. Ainsi tout à l'heure, Andrei Rublev contre Borna Gojo puis Daniil Medvedev face à Marin Cilic se sont imposés en 2 manches sans trembler. C'est la 3e fois après 2002 et 2006 que la Russie inscrit son nom au palmarès de la Coupe Davis. Elle avait déjà remporté l'ATP Cup en janvier. Cette nouvelle compétition, cette nouvelle trouvaille, compétition par équipe donc, et Daniil Medvedev est lui forcément ravi de se doubler.
Je suis vraiment content que la Russie ait gagné ces deux compétitions cette année. La plus historique est la Coupe Davis et pour nous quatre, c'est vraiment important de l'avoir remportée. On a vu Djokovic la jouer, Nadal l'avait gagné la dernière fois, donc quel que soit son format, les meilleurs du monde sont contents de représenter leur pays. Cela reste la Coupe Davis, nous en sommes les vainqueurs et c'est le plus important.
Grande année en tout cas pour le numéro 2 mondial, Daniil Medvedev, qui après avoir remporté en septembre à l'US Open le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière, décroche donc son tout premier saladier d'argent.
Place au handball, le mondial féminin se tient actuellement en Espagne. Les Bleus continuent sur leur lancée. Après son entrée en lice réussie face à l'Angola, l'équipe de France s'est facilement imposée contre la Slovénie pour son deuxième match. Score 29-18, le récit de Marion Cazeneuve.
Ils étaient habitués aux performances en demi-teinte à l'entame de compétitions internationales. Cette fois, les joueuses de l'équipe de France de handball ont réussi parfaitement leur entrée au mondial en Espagne. Avec une deuxième large victoire ce soir face à la Slovénie, 29-18, elles se qualifient pour le tour principal avant même leur dernier match du tour préliminaire. Lors de leur entrée dans le tournoi, elles avaient déjà battu l'Angola. Une nouvelle démonstration de force en grande partie réalisée par la qualité de sa défense incarnée notamment par la gardienne Cléopâtre Darleux, très satisfaite du résultat et de la manière.
Franchement, vraiment contente de ce match. On l'appréhendait un petit peu parce que la Slovénie, on sait que elles ont su nous embêter par le passé et il y a des joueuses exceptionnelles dans cette équipe, donc voilà, on était alerte. On a bien préparé le match, on a aussi des filles qui jouent avec ces filles-là en club, donc ça aide aussi. On a chacune des expériences avec plusieurs joueuses, donc c'est vrai qu'on c'est des joueuses qu'on connaît quand même assez, donc on les avait bien identifiées et je pense qu'on a bien suivi le projet, le plan de jeu qu'on s'était fixé. Et voilà, on a gagné avec la manière, avec un bel écart, une très bonne défense, un peu plus en première mi-temps qu'en deuxième, mais sinon en général c'était vraiment un beau match.
Voilà, c'était le journal des sports de ce mardi 7 décembre.
Et dans 36 secondes, je repasse l'antenne à ma collègue Marianne pour nous présenter le journal de la semaine en France.
Comme chaque mardi, place à présent à l'actualité française. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Émile, bonjour.
Bonjour à tous.
À la une aujourd'hui, Valérie Pécresse, qui sera donc la candidate du parti Les Républicains à l'élection présidentielle.
Valérie Pécresse, 54 ans, c'est elle qui a remporté la primaire organisée par la droite, par le parti Les Républicains. Les militants se sont prononcés et elle sera donc la candidate pour la présidentielle. Il y avait au départ 5 candidats pour cette primaire. Le premier tour s'est déroulé en ligne, vote par internet des adhérents, les 1er et 2 décembre, quelques 113 000 votants. Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, est arrivé en tête de ce premier tour, 25,59%, juste devant Valérie Pécresse, 25%, la présidente de la région Île-de-France. Ils ont devancé tous les deux Michel Barnier, 23,93%, Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, 22,36%, et Philippe Juvin. Ils se sont donc retrouvés en finale, Éric Ciotti et Valérie Pécresse, pour un second tour organisé dans la foulée. Là encore, vote des militants par internet, les 3 et 4 décembre. Et là, c'est l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de 2007 à 2011 et ministre du Budget de 2011 à 2012. Elle, qui avait reçu avant le second tour de cette primaire le soutien des 3 battus du premier tour. C'est elle qui l'emporte. Elle recueille 60,95% des suffrages contre 39% pour Éric Ciotti, Valérie Pécresse, qui représentera donc le parti Les Républicains à l'élection présidentielle de 2022.
Émile, Valérie Pécresse qui est la première femme à être investie par la droite.
Oui, la droite classique, traditionnelle, sous la Ve République, a eu le général de Gaulle, Georges Pompidou, plus tard Jacques Chirac, puis Nicolas Sarkozy et François Fillon, il y a 5 ans, pour ne citer que les principaux, avec un parti qui a changé de nom, le RPR, l'UMP et aujourd'hui les Républicains. C'est Valérie Pécresse qui va emporter les couleurs de ce parti, les Républicains, à la prochaine présidentielle, même si elle avait pris ces dernières années ses distances avec les instances du parti, pas vraiment en accord avec la ligne politique qui était défendue, une droitisation du parti des Républicains, droitisation qu'incarne le résultat obtenu par Éric Ciotti. C'est là tout le défi qui attend Valérie Pécresse pour cette présidentielle. Maintenant que la droite a une candidate identifiée, il va lui falloir rassembler et décoller dans les sondages entre 10 et 15% d'intention de vote pour l'instant. Et ça ne suffirait pas pour prétendre au second tour de l'élection présidentielle quand les enquêtes d'opinion donnent près de 25% à Emmanuel Macron, le président actuel, et même si cela fluctue, autour de 20% pour Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement National de l'extrême droite. Valérie Pécresse, déjà, va devoir rassembler sa propre famille politique après cette primaire, ce que n'avait pas su faire François Fillon il y a 5 ans après sa victoire à la primaire. À l'arrivée, François Fillon n'avait pas passé le premier tour de la présidentielle. Là, dès hier, lundi, Valérie Pécresse s'est rendue à Nice pour déjeuner avec Éric Ciotti. De la même façon, elle compte aller rencontrer dans leur fief ces prochains jours Xavier Bertrand, Michel Barnier, Philippe Juvin, pour que la photo de ce week-end où on les voit tous les 5 avec Valérie Pécresse face au micro à la tribune qui vient de gagner, que ce rassemblement-là ne soit pas qu'une image fictive, que tout le monde chez les Républicains fasse campagne avec elle. Valérie Pécresse incarne une droite libérale, européenne. Quel positionnement, quelle stratégie va-t-elle adopter? Va-t-elle droitiser sa campagne à outrance, comme lui suggère Éric Ciotti, pour aller chercher les électeurs de Marine Le Pen et ceux d'Éric Zemmour, le polémiste d'extrême droite qui est candidat? Une campagne qui serait dominée par les thèmes de l'immigration et de la sécurité, où Valérie Pécresse va-t-elle chercher, elle qui affirme vouloir battre Macron, va-t-elle chercher à séduire avant tout les électeurs du centre-droit, ces électeurs que le président de la République a su amener à lui? C'est toute l'équation qui attend désormais Valérie Pécresse.
Et pendant ce temps-là, les autres candidats sont déjà en campagne.
Oui, Éric Zemmour qui a officialisé sa candidature il y a quelques jours dans un clip de 10 minutes, très controversé. Il a tenu son premier grand meeting de campagne à Villepinte en Seine-Saint-Denis. 11 000 personnes étaient là dans la salle. Il les a remerciés en ces termes. Ces Français qui, en venant le voir, ont, a-t-il dit, bravé le politiquement correct, les menaces de l'extrême gauche et la haine des médias. Les médias, il en a fait sa cible, Éric Zemmour. Il ne se passe pas une seule journée sans que le pouvoir et ses relais médiatiques m'attaquent, a-t-il lancé à la tribune. Il a dénoncé, je cite, le système avec ses juges aux ordres et ses journalistes militants. Éric Zemmour qui a repris ses thèmes favoris, l'immigration, la France qui n'est plus ce qu'elle était. La France n'est pas un menu à la carte, a-t-il affirmé, ajoutant « Je fais une distinction entre qui est français et qui ne l'est pas ». Il s'est attaqué aussi au président de la République, Emmanuel Macron. « Un mannequin de plastique », a-t-il dit, « un automate, personne ne sait qui il est parce qu'il n'est personne ». À quelques dizaines de kilomètres de Villepinte, quelques dizaines de kilomètres de là, de l'autre côté de l'échiquier politique, Jean-Luc Mélenchon, candidat de l'extrême gauche de la France insoumise, tenait lui aussi un meeting à la Défense. 4500 personnes pour l'écouter, plus tous ceux qui n'ont pas pu entrer. Il y avait beaucoup de monde là aussi, dimanche. Jean-Luc Mélenchon, qui en est à sa troisième campagne présidentielle, a répondu indirectement à ce qui se disait à Villepinte avec Éric Zemmour. « Nous venons pour redonner au pays du courage !» a lâché Jean-Luc Mélenchon. « Du courage, alors qu'il est plongé dans l'obscurité de débats absurdes pour des affaires de religion ou de couleur de peau. Non !» a enchaîné Jean-Luc Mélenchon. « La France n'est pas l'extrême droite. La France, c'est la sécurité sociale, c'est la santé publique, c'est l'émancipation, l'école, la recherche, c'est le partage. » Fin de citation.
Merci Émile d'avoir décrypté pour nous l'actualité cette semaine en France.
Merci, merci. À bientôt.
Et maintenant, on va parler du Petit Prince, ce spectacle de danse qui revient à Sydney du 1er au 23 janvier prochain. C'est une interview avec les co-réalisatrices Annie Tournier, chorégraphe, et Chris Mouron, dramaturge du spectacle The Little Prince.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Bienvenue à vous sur SBS French.
Bonjour.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Et parlez-nous donc de ce spectacle, The Little Prince de Saint-Ex. C'est un spectacle de danse, d'après ce que je comprends.
C'est un spectacle de danse d'acrobatie, mélangeant du nouveau cirque avec de la danse contemporaine, créant un langage commun entre l'air, le sol, et avec une équipe qui est une troupe d'artistes qui est melting pot d'un peu tous les pays du monde.
Et il y a aussi, en plus de la danse et de l'acrobatie et des arts aériens, un narrateur qui parle, qui dit les mots essentiels de Saint-Exupéry, bien sûr, et ouais, qui chante. Voilà, beaucoup de musique originale très belle aussi.
C'est donc un spectacle que nous avons voulu créer nous-mêmes en tant que directeur et chorégraphe, et que nous avons porté pendant beaucoup de temps et que nous avons donné à une production pour pouvoir nous produire, voilà.
Et donc, d'après ce que je comprends, vous étiez ici au Sydney Opera House au début de 2021.
Oui. C'est ça, oui. C'était magnifique. Au mois de mai, juin, fin mai, début juin, oui.
Et donc, c'est une tournée internationale que vous effectuez en ce moment, après celle de France, de Dubaï, d'après ce que j'ai lu.
Oui, Oui, après Dubaï, malheureusement, nous avons eu, comme tout le monde, l'année Covid. Et le spectacle a dû s'arrêter pendant à peu près une année. Et nous avons donc repris avec ce théâtre prestigieux qui est le Sydney Opera House. Et là, nous repartons de nouveau à Sydney et nous avons un grand projet qu'on est obligé de taire encore 48 heures, mais en tout cas, si ça serait, enfin, c'est pratiquement certain et je crois qu'on n'a pas le droit de l'annoncer, mais voilà, après cela, on aura une grande tournée, oui.
Qui va nous porter au-delà des océans.
Parlez-nous du casting, les interprètes qui jouent le rôle du Petit Prince.
Celui qui joue le rôle du Petit Prince, c'est un acrobate, on dit sanglier en français et en anglais un straps acrobate, qui a travaillé, qui travaille avec moi depuis plus d'une dizaine d'années. Et qui mélange, avec qui je mélange la danse contemporaine et l'aérien, le travail aérien dans les airs.
Et comment vous avez choisi ces interprètes ?
En fait, j'ai travaillé pendant 11 ans avec Franco Dragone, qui était le metteur en scène qui était avant au Cirque du Soleil et qui s'est installé en Belgique pour créer sa compagnie. Au cours de ces nombreux spectacles, nous avons fait Le Rêve à Las Vegas, nous avons fait The House of Dancing Water à Macao, nous avons fait le Hangzhou en Chine. Au cours de ces spectacles, j'ai formé ces artistes et maintenant ils sont dans notre spectacle.
Le Petit Prince, en fait, pour nous, c'est un adolescent. Ouais. On n'a pas pris un enfant parce que c'est très compliqué de faire jouer les enfants. Surtout d'une manière internationale. Donc, notre Petit Prince ressemble plus à un teenager qu'à un enfant, bien sûr. Et la troupe, le plus jeune a 19 ans, et la plus vieille, c'est moi. Je ne vous dirai pas mon âge parce que ça ne se dit pas. Mais voilà, mais en général, ils ont tous entre eux, on va dire, 20 et 30 ans, à part moi. Voilà.
Et en France, quelle a été la réaction du public en voyant ce spectacle sur scène ?
La même que partout, curieusement. Les gens, c'est familial déjà. Ouais. Les enfants sont là avec les parents et chacun a son regard. Et tout le monde est captivé pendant une heure et demie avec le public, qu'il soit en France, qu'il soit à Marseille, qu'il soit à Paris, aux Folies Bergères, que ce soit à l'Opéra de Dubaï, que ce soit au Sydney Opera House, les réactions sont les mêmes.
Et les réactions sont magnifiques, je dirais.
C'est universel, le Petit Prince.
D'abord, bon, nous, on a créé ce spectacle parce qu'on adorait ce livre. C'est un chef-d'œuvre. Et on se rend compte on comprend. Quand on voit les réactions du public avec ce spectacle, on comprend que c'est le livre le plus traduit au monde après la Bible. Il y a quelque chose de magique, d'exceptionnel dans l'histoire du Petit Prince, dans lequel nous nous reconnaissons tous. Et nous avons essayé de porter cette histoire, parce qu'il n'y a rien de plus difficile que d'adapter un chef-d'œuvre. On l'a fait avec beaucoup d'humilité et de respect et d'amour pour Saint-Exupéry. Et le fait que le langage soit, on va dire, extrêmement gestuel, hormis le narrateur, fait que quelque part on a laissé la porte ouverte à l'imagination du public. Ceux qui connaissaient le livre, qui viennent parce qu'ils aiment le livre, parce que ce livre les a portés dans leur vie, comme nous, et puis ceux qui découvrent aussi. On a découvert en Australie que le livre n'était pas très connu, en fait. Curieusement, on a été très étonnés avec ça, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le livre du Petit Prince en Australie, contrairement aux États-Unis ou bien sûr les pays d'Europe, etc. Donc, on était un petit peu, comment dire, pas inquiète, mais curieuse de voir la réaction de ce public australien à l'Opéra House. Et elle a été la même, comme dit Anne, la même qu'à Paris, la même qu'à Dubaï. Ce sont des publics extrêmement différents, mais ils réagissent tous de la même manière. Ils sont tous extrêmement focus, comme on dit en anglais, extrêmement concentrés. Même les petits enfants ne bougent pas. Et à la fin, et ben voilà, ils sont enthousiastes et ils ont des étoiles plein les yeux, je dirais. Voilà.
C'est vraiment un spectacle avec énormément d'émotions, comme le livre.
Votre mission aussi, c'est peut-être d'éduquer ce jeune public australien aux œuvres de Saint-Exupéry.
Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, je crois qu'après le spectacle, il y a beaucoup de gens qui doivent acheter le livre, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Et aussi, moi, je me souviens, quand j'étais enfant, j'ai pas lu d'abord Le Petit Prince. Je l'ai écouté avec le merveilleux enregistrement qu'avait fait Gérard Philippe, le célèbre acteur français, oui. Avec Gérard Poujouli, qui était un petit prince extraordinaire, un petit garçon. Et je me souviens que j'étais complètement bouleversée en écoutant ce disque. À l'époque, c'était un disque, un vinyle, dans la classe de l'école. Et que ça fait partie des livres qui ont changé ma vie, qui ont ouvert mon imagination, qui m'ont rappelé que ce monde était beau parce qu'il était rempli de beauté et d'émotion. Et on espère que ceux qui découvrent ont la même, ça les marquera de la même façon. Voilà, on parle d'éducation, oui. Je dirais que ça va un peu au-delà de l'éducation. C'est plus un message humain. C'est quelque chose qui laisse des traces. Voilà. Parce que Saint-Exupéry laisse des traces dans l'histoire de l'humanité avec son livre. C'est évident.
Je pense qu'il faut vraiment que les jeunes reviennent au théâtre.
Aussi.
Il y a vraiment les jeunes, les parents jeunes qui reviennent au théâtre. Souvent, les gens qui sont au théâtre en ce moment, en France en tout cas, sont des gens retraités, des gens qui ont le temps, des gens cultivés bien sûr, mais cette jeunesse doit revenir dans le théâtre.
Ouais. Tout à fait. Et il y a une chose aussi qui nous interpelle, c'est que Saint-Exupéry a écrit ce livre en pleine Deuxième Guerre mondiale. Il est évident qu'il n'aurait pas, peut-être pas écrit le livre de la même façon en des temps différents. C'était une période extrêmement dure pour lui, comme pour beaucoup de gens. Ouais. Et aujourd'hui, avec ce Covid, je ne fais pas une comparaison, bien sûr, avec la Deuxième Guerre mondiale, mais nous vivons des choses difficiles pour l'humain. Et on a le sentiment avec Cannes, quand on est revenu quand on est venu en Australie, qu'il y avait une résonance encore plus forte parce que il y avait eu cette année entière de pandémie, voilà, et que les gens avaient une autre perception du spectacle à cause et grâce à cela. Oui.
Peut-on parler de vos projets d'avenir après le spectacle du Petit Prince?
Nous sommes sur une autre création parce que nos producteurs pensent que nous avons, et beaucoup de monde, créé un nouveau genre avec ce spectacle. C'est un grand petit show et nous allons en faire un deuxième, bien sûr, voilà.
Et sinon, le Petit Prince, avec notre production Broadway Entertainment Group, on pense entre 3 et 5 années de tournée internationale. Et j'espère qu'on reviendra aussi en France. Et on espère aller aussi à Montréal, jouer dans des pays francophones aussi. Parce que la version en Australie sera anglaise. Et voilà, on espère porter le plus longtemps et le plus loin possible ce spectacle, oui, au Japon aussi, voilà. On a beaucoup de projets qui sont en train de se construire après l'Australie.
Et comment vous présentez le spectacle dans les pays anglophones avec des surtitres?
Alors, en fait, on le joue en anglais. La version est anglaise, à part quelques chansons qui ont été faites en français, et c'était notre volonté de les laisser en français. Il y a des sous-titres pour ceux qui n'entendent pas très bien ou qui comprendront pas très bien mon accent un peu francophone. Et voilà comment nous le présentons. Mais ça, la version anglaise, on veut le faire pour des pays anglophones. À partir du moment où on passera, je ne sais pas, moi, en Italie ou en Allemagne, on ne va pas le faire en anglais, on le fera en français avec des sous-titres du pays, bien sûr. Voilà.
Eh bien, je vous remercie d'être intervenu sur les ondes de SBS French. Je rappelle que le spectacle aura lieu cette fois-ci au Sydney Coliseum Theatre. C'est à partir du 1er janvier jusqu'au 23 janvier, donc 3 semaines en Australie. Et il y a un site d'ailleurs, thelittleprincetour.com.au.
Oui, et venez nous voir en dehors du site.
Oui. Absolument. Merci beaucoup et Et à très bientôt.
Merci
en Australie.
À vous.
Venez voyager
oui.
avec nous.
Et ici, il fait très froid, là, aujourd'hui en France. Et on est très, très contente d'aller vers l'été. Voilà.
Vous serez gâtés. Merci beaucoup.
Merci. Merci. Au revoir.
Au revoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
13h56 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Et en fin d'émission, un rappel des grands titres de ce mardi 7 décembre. Les enseignants des écoles publiques de Nouvelle-Galles du Sud en grève ce mardi. La peine de prison de la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi est réduite de moitié. Et en sport, les États-Unis confirment un boycott diplomatique des JO d'hiver de 2022 à Pékin. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est jeudi à 13h sur les ondes de SBS French. Et on vous quitte avec Dalida. Il venait d'avoir 18 ans. Belle fin d'après-midi. À bientôt.
Je l'ai laissé partir sans faire un geste. Il m'a dit, c'était pas si mal avec la candeur.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.